Chapitre 41. Vivante, morte, vivante et morte. Ses yeux grands ouverts, immobiles et incapables d'éviter l'éblouissement d'une lampe suspendue au-dessus d'elle. Julie percevait le froid dans son dos. Elle était glacée. La surface sur laquelle gisait son corps inerte était dure et, lui semblait-il, en hauteur. Elle ne parvenait pas à bouger le moindre muscle, à émettre ne serait-ce qu'un murmure. Le ressac de sa respiration, la circulation de l'air dans ses poumons lui paraissait en revanche amplifiée. Rien d'autre n'existait que ces bruits-là, et son cœur qui se démenait pour continuer de battre. Ses souvenirs remontèrent peu à peu. Elle se rappela la manière dont son couteau artisanal avait ripé sur la poitrine de Traskman, sa fuite dans le labyrinthe, le retour à la case départ, et les ultimes mots de son bourreau avant qu'elle perde connaissance. « Et tu vas mourir. » Maintenant, elle était paralysée dans un lieu où régnait un silence absolu. Ça sentait la poussière, le salpêtre. Le plafond se craquelait partout, laissant même apparaître des traînées de végétation. Sa tête devait être légèrement tournée sur le côté, car elle discernait des carreaux cassés sur le mur, des casiers en métal, des draps jaunâtres. Elle pensa à une salle médicale, peut-être un vieux bloc opératoire ou une morgue. Oui, c'était ça ses tiroirs. Et elle était installée à l'endroit où on autopsiait les cadavres. Elle voulut hurler, mais sa langue resta écrasée contre ses lèvres molles. Traskman avait dû lui injecter un sédatif puissant qui l'immobilisait sans pour autant altérer sa conscience. Son esprit tournait à 100 à l'heure. C'était insupportable. Elle l'avait blessé, avait tenté de s'enfuir. Il aurait pu la tuer, mais ça aurait été trop simple, trop rapide. Il avait une autre idée derrière la tête. Elle perçut des claquements de pas au loin, comme jaillis du fond d'un rêve, puis des voix graves de plus en plus proches. On lui redressa la tête, les yeux bien vers le plafond, et un visage se pencha sur elle. Un nez épaté, un front très large, disproportionné, et de gros yeux ronds. La paupière gauche était décollée du globe oculaire, de sorte qu'elle distingua nettement un ignoble film rosé de chair fragile et humide. L'horreur incarnée. « La pupille est dilatée, on la croirait morte. C'est parfait pour moi. » L'homme s'adressait à une autre personne. Il se déplaça ensuite en la fixant toujours du regard, très concentré, à la manière d'un photographe qui cherche le plan le meilleur. « Je vais avoir besoin de plus de lumière, et d'un réflecteur juste là, pour blanchir son teint. Je cadrerai serré sur chaque partie du visage, les lèvres, l'œil. » Il disparut du champ. Julie n'y comprenait rien. Est-ce que c'était ça l'enfer ? Elle n'arrivait même pas à pleurer. Il fallait qu'elle sorte d'ici. Elle pensa aussi fort qu'elle le put à ses parents, même si le temps rendait désormais leurs souvenirs de plus en plus imprécis. Elle savait, au fond d'elle, qu'ils ne l'avaient pas oublié, qu'elle leur manquait toujours autant. Elle aurait aimé leur dire qu'elle avait essayé de tenir bon, qu'elle s'était battue de toutes ses forces, mais qu'aujourd'hui, c'était terminé. La fin du chemin se profilait. Le type au front de buffle positionna une lampe sur pied à sa droite, tandis qu'une autre tête surgit sur sa gauche. Tout en os, les pommettes saillantes, un nez fin comme une lame, le crâne orné d'un borsalino. Julie sentit sa main osseuse le long de sa joue, alors qu'un sourire dévoilait des dents trop parfaites pour être vraies.
« On pourrait l'appeler la joueuse d'échecs. D'après ce que tu m'as raconté, ça la représenterait bien, non? Qu'est-ce que t'en dis ?»
Il avait la voix roulante, l'accent des pays de l'Est. Caleb apparut soudain à côté. Julie aurait voulu fuir ce regard noir, éclatant de sadisme et de vengeance. Il la contemplait avec sa petite bouche pincée, perdue dans sa barbe.
« C'est une brillante idée, Dimitri. » « Il va y avoir du travail, beaucoup de travail. Mais le résultat sera à la hauteur. » Je la placerai devant une table transparente sur laquelle reposera un échiquier. J'opterai peut-être pour le marbre plutôt que le bois. Le marbre est plus froid, mais il dégage une vraie force. Elle sera assise sur un tabouret, voûtée, en train de réfléchir. Ses mains de part et d'autre du plateau, comme si elle voulait s'approprier chacune des 64 cases. On prendra une partie en cours. Ça donnera une impression de mouvement. T'as une préférence sur cette question ?
L'immortel de Kasparov.
Très bien. Tu m'aurais offensé si tu n'avais pas choisi celle d'un russe.
Il sourit, puis fit courir son index sur le front de Julie.
J'ouvrirai le crâne en coupe transversale pour laisser apparaître le cerveau tout en le gardant intact. L'idée, c'est que les visiteurs s'interrogent sur la manière dont un joueur d'échecs décide de ses coups, qu'il se plonge dans la complexité de cet organe extraordinaire.
Il la bascula ensuite sans ménagement, comme un morceau de viande. Le nez de Julie était écrasé contre une rigole d'évacuation des fluides. Elle avait envie de mourir, là, tout de suite.
Elle n'a pas de tatouage, c'est bien, j'ai horreur de ça. Ce que je ferai, c'est que j'éplucherai le dos, mais je déploierai les pans de chaque côté. Ça fera penser à des ailes d'ange, et ça créera un parallèle subtil avec le nom de la partie. Je dégagerai aussi la colonne vertébrale et mettrai en évidence les nerfs spinaux, le plexus brachial et l'ensemble des nerfs du bras.
Il la remit en place. La tête de Julie pivota, ce qui lui offrit une vue différente. À l'arrière-plan, le photographe installait son matériel et un autre homme, qu'elle n'avait pas encore vu, était en train de dessiner son visage sur une toile blanche posée sur un chevalet. Celui au chapeau s'adressa de nouveau à Traskman.
« Elle est droitière ou gauchère ?»«
Droitière. » »«
Parfait. J'écorcherai donc l'intégralité du bras droit. Possible que je ne touche pas à l'autre membre pour ne pas brouiller le message. Je verrai le moment venu. En tout cas, ce que je veux montrer avant tout, c'est comment une connexion neuronale se transforme en un mouvement de main qui fait bouger une pièce en bois. »
Il se pencha vers Julie.
Qu'est-ce que t'en penses, Andreas? Cette joueuse d'échecs sera saisissante, non?
Julie voyait les faces immondes se succéder, former une ronde au-dessus d'elle. Quand ce calvaire cesserait-il? Son corps était une pierre morte qui ne lui appartenait plus, mais elle ressentait tout, jusqu'au contact répugnant des doigts de ces salopards chaque fois qu'il la touchait.
Ça va être une œuvre formidable, répliqua le photographe en terminant ses préparatifs. Et maintenant, si vous permettez, je vais avoir besoin de la place. Laissez-moi une demi-heure seule avec elle, s'il vous plaît. J'ai horreur qu'on me regarde travailler.
Une œuvre. Une écorchée, exposée dans un musée, comme au temps de Fragonard. Julie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Tout cela ne pouvait pas exister. Ces types étaient fous, complices dans le crime, des meurtriers en série. Ils kidnappaient, torturaient, tuaient. Ils étaient des abominations. Les visages disparurent. Celui qui dessinait grogna en remballant son matériel. L'homme au front de buffle, lui, fit quelques tests avant de se lancer. De puissants flashs illuminèrent la pièce. Julie était son modèle, son cadavre, sa matière première. Muni de son appareil photo, il tournait autour de la table. D'abord, il la photographia dans sa globalité, puis en zoomant sur des parties bien précises. Après quoi, il finit par se concentrer exclusivement sur un de ses yeux. Cette grande pupille dilatée, figée, vide.
C'est bien, c'est bien. T'es une petite perle.
L'esprit de Julie décrocha et s'envola. Elle voyagea, loin, très loin d'ici, jusqu'à ce que son corps, subitement, glisse le long de l'acier et décolle, qu'elle se retrouve pendue par les pieds, nue, comme une vulgaire carcasse. Ses doigts effleuraient le sol, le monde était inversé. Elle discerna un couloir noir, des murs décrépits, des branches d'arbres qui se tordaient derrière les vitres brisées. Caleb était désormais seul, à quelques mètres d'elle. Il fixait l'extrémité de la corde à la table en métal vissée par terre et grimaçait sous l'effort. Une fois le nœud effectué, il s'approcha, un scalpel à la main. S'agenouilla devant elle,
promena la lame sur sa joue. Ses traits étaient tirés, ses rides profondes. « Je ne sais pas ce qui me relie à toi. Je ne sais pas pourquoi je me bats pour que tu vives. Dmitri était sur le point de t'embarquer pour t'écorcher, mais je n'ai pas pu. C'est pourtant moi qui les ai convoqués. J'étais prêt à te voir mourir. Je le croyais du moins. » D'un geste plein de colère, il balança son scalpel à travers la pièce.
« Tu ignores tout ce que ça me coûte. À quel point j'entame leur confiance en moi. T'es en train de tout ruiner, tu te rends compte de ça ?»
Il se redressa, se mit à aller et venir.
« Tu nous prends pour des monstres. Tu n'es pas la seule. On nous juge, on nous hait, parce que nos œuvres sont brutales, immorales. Mais qui lit mes livres ? Qui entre dans les musées pour s'extasier devant des peintures de violence pure ? Qui s'entasse dans les salles de cinéma pour se complaire, 2 heures durant, à regarder des tueurs qui torturent leurs victimes ? Qui se délecte de l'abject et fait semblant d'être extérieur à tout ça ? »
Il revint vers elle, excédé.
« Vous vous mettez des œillères, mais vous êtes tous coupables. Et nous, on est là, bien plus nombreux que tu ne l'imagines, pour vous ouvrir les yeux. C'est aussi simple que ça. »
Julie n'y comprenait plus rien. Le sang affluait dans sa tête, lui brouillait la vue. Sa respiration devenait difficile.
« Pour le monde du dehors, tu es morte, Julie. »
Ces photos qu'a prises Andreas, elles vont s'ajouter à celles d'autres cadavres déjà exposés dans des galeries. La plupart sont de véritables dépouilles, des accidentés, des malades, des suicidés, immortalisés dans de vraies morgues. Mais dans cette collection, il y a également des personnes qui menaient une vie normale. Tu te rappelles cet écorché que je t'ai montré ? Noémie Clouriot ? Elle s'est retrouvée ici, tout comme toi. Mais elle, ainsi que d'autres, n'a pas eu cette chance que je te donne.
D'autres ?
Il y en avait eu plusieurs avant elle. Soudain, elle en eut la nausée. Elle prenait conscience, un peu plus encore, de la folie qui ravageait le cerveau de ces types.
Dmitri, Andreas, Arvel, tous ces hommes sont célèbres, tu sais. Les écorchés de Dmitri font le tour de la planète et attirent des centaines de milliers de curieux. Les peintures d'Arvel sont accrochées dans les salons les plus chics. Les clichés d'Andreas s'arrachent. Mais ce que les gens ignorent, c'est que peut-être c'est leur propre nièce, leur propre enfant qui un jour a disparu, qu'ils ont sous les yeux. Et nous, on est juste là, à côté d'eux, et on observe leur visage. On se nourrit de ça.
Il se décala derrière elle, sortant quelques secondes de son champ de vision, puis réapparut avec une seringue.
« Je suis ta seule famille désormais. Tu n'as plus de passé et ton futur m'appartient. » Mais si tu ne cherches plus à me faire du mal, tu seras bien, je te le promets. On va vieillir ensemble. Tu seras ma muse et grâce à toi, j'écrirai mes meilleures histoires. »
Il lui planta l'aiguille dans l'épaule et injecta le produit sans la moindre hésitation.
« Je te ramène à la maison. Je crois qu'après tout ça, tu mérites une longue, une interminable cure de petites pilules vertes. »